Botena Bino à nos auditeurs congolais. Bonjour l'Afrique. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Carrefour Sciences et Santé. Votre rendez-vous pour enrichir vos connaissances sur le monde qui nous entoure. Au menu, de nouvelles applications mobiles et leur utilité peu ordinaire, l'importance de la carotte chez l'homme, la plus grande base de télescopes en construction. Nous découvrirons quelqu'un qui détient un million de secrets qu'il a décidé de partager avec son audience. Et Carrefour vous fait un clin d'œil. Le sperme peut maintenir le virus Ebola jusqu'à 12 mois. Eric Manelakiza en votre compagnie, bienvenue. Le renard en sait beaucoup, mais une femme amoureuse en sait davantage, comme l'a si bien dit Joseph Saniel Dubé. Et c'est cet amour, chères auditrices et auditeurs de VOA Afrique, que nous portons pour Carrefour, qui nous ouvre la voie à en savoir davantage. Et oui, les Sénégalais le savent déjà, une application mobile pour mettre en relief le phénomène d'enfants mendiants dans les rues de Dakar a vu le jour depuis une année. Maëlys Hegel a les détails.
C'est un concepteur de logiciels sénégalais de 32 ans, Ousseynou Kadim, qui a créé cette application mobile. Son but, dénoncer la situation des enfants mendiants du Sénégal. Souvent issus du milieu rural, ils sont confiés à des daras, des écoles coraniques, et forcés à mendier dans les rues des grandes villes pour leur maître. En février, les autorités ont découvert 20 garçons, âgés de 6 à 14 ans, enchaînés aux pieds par leur maître coranique dans une ville du centre du pays, avec la complicité de deux menuisiers qui avaient fabriqué les fers. Cette application a été lancée l'année dernière et s'appelle Cross Dakar City. Elle s'inspire d'un jeu d'arcade à succès des années 1980 et est disponible à la fois pour iOS et pour Android. Installée à Lyon en France et revenant souvent dans son pays, Ousseynou Kadim ne s'est toujours pas habitué à la vision tristement banale des quelques 30 000 enfants mendiants du pays. Il explique... L'idée n'est pas de dire aux parents que leurs enfants ne doivent pas apprendre le Coran, mais de leur montrer la réalité. Ils n'apprennent pas vraiment, ils mendient et donnent de l'argent à l'école qui les exploite. Le héros de l'application, Mamadou, est un petit garçon qui a décidé de rompre les chaînes de la mendicité et de retrouver ses parents. Mais il doit d'abord traverser les rues de Dakar en évitant de se faire écraser par les voitures, en montant sur des pirogues, en esquivant les cars rapides... Et plus on avance dans le jeu, moins la circulation est fluide. Aspect ludique donc, mais véritable volonté de prise de conscience en même temps. Pourtant, les ONG spécialisées auxquelles Ousseynou Kadim a demandé de l'aide lui ont fermé la porte au nez. Le Fonds de l'ONU pour l'enfance, l'UNICEF, lui a par exemple rappelé que l'éducation était une compétence nationale sortant du cadre de sa mission et qu'il ne pourrait pas l'aider. C'est du côté de l'État sénégalais que la déconvenue a été la plus cruelle, confie le développeur de l'application. Il dit avoir écrit au président Macky Sall et à l'ambassadeur de son pays en France, sans recevoir de réponse. La loi de 2005 interdit la mendicité forcée, sous peine de 2 à 5 ans de prison et d'amende, mais cela n'a aucun effet. Espérons que l'application Cross Dakar City aura l'effet espéré et éveillera les consciences sur le sort de ces enfants mendiants.
Merci Maëlys pour ces explications. Nous avons joint à Dakar notre correspondante Sorna Natambaye pour savoir si cette application porte déjà des fruits.
Pour dire vrai, il n'y a pas vraiment de changement puisque le problème des enfants talibés, il faut le savoir, ça a commencé des dizaines d'années. Alors il ne va pas suffire d'une simple application pour changer tout cela. C'est vrai, les Sénégalais ont adhéré à Cross Dakar City. Beaucoup de Sénégalais ont téléchargé l'application puisque 70% même des téléchargements ont été faits ici au Sénégal. Mais cette application n'a pas changé grand-chose parce que c'est dans la mentalité des Sénégalais et également c'est ancré dans le vécu des Sénégalais. Donc ce sera très difficile de changer cela. Alors les jeux qui sont les plus téléchargés ici au Sénégal, ce sont les jeux qui viennent de l'extérieur. Je veux parler des Candy Crush, ce sont les jeux surtout qui sont développés par King et les autres jeux, les applications, les jeux de course, etc. Donc je pense que vous avez parlé du mot, c'est l'impact. C'est l'impact, ça reste.
Y a-t-il eu une sensibilisation nécessaire?
Si, parce que que le concepteur du jeu même, Ousseynou Khadim Bey, a fait le tour de certains médias ici au Sénégal. Il a parlé du jeu, il a essayé de sensibiliser la population sénégalaise sur l'importance de ce jeu, sur l'importance également de la prise en charge du problème des talibés. Mais voilà, jusqu'à présent, l'objectif qui était visé n'a pas encore été atteint, disons, à 100%, même pas à la moitié. Jusqu'à présent, le phénomène persiste et tout.
De Dakar, retour ici aux États-Unis pour découvrir une autre application pour smartphone qui a permis à des chercheurs américains de traquer les habitudes de sommeil dans le monde et de mieux cerner le rôle joué respectivement par les pressions de la société et les rythmes biologiques. Maëlys Seguel nous parle de notre horloge biologique.
Oui Eric, c'est grâce à une application que les chercheurs ont pu examiner comment l'âge, le sexe et la quantité de lumière naturelle à laquelle on est exposé affectent la durée du sommeil. Et cela dans 100 pays en déterminant quand les personnes vont se coucher et quand ils se réveillent. C'est en utilisant l'application mobile gratuite Entrain que ces scientifiques ont pu recueillir un grand nombre de données sur les habitudes de sommeil de milliers de personnes dans le monde. Cette application, Entrain, a été lancée en 2014 pour aider les voyageurs à s'adapter au décalage horaire en permettant à chaque personne d'avoir un programme personnalisé d'exposition à la lumière. Ces scientifiques ont pu observer comment les pressions de la vie sociale affectent notre horloge interne, le plus souvent au moment d'aller se coucher. Notre horloge biologique a la taille d'un grain de riz et contient 20 000 neurones. Elle est située derrière les yeux et se règle en fonction de la quantité de lumière que nous captons, surtout la lumière naturelle. Les chercheurs ont remarqué qu'un manque de sommeil de seulement une demi-heure peut avoir des effets considérables sur les fonctions cognitives et la santé.
Vous suivez Carrefour Science et Santé, bientôt la construction d'un télescope terrestre. Mais déjà, les ingénieurs de la NASA s'approchent de la phase finale de l'assemblage du nouveau télescope spatial James Webb, qui doit être déployé en 2018. Par ailleurs, un consortium international mené par les États-Unis a entamé des travaux de construction du plus télescope terrestre jamais construit. Ce récit de Georges Poutich nous est présenté par Chérubin Dorsil.
Le miroir du télescope spatial Hubble, qui nous a donné ces étonnantes images de l'espace, ne mesure que 4,5 mètres carrés. Les astronomes s'attendent à une meilleure résolution des images qui seront prises grâce au télescope James Webb, dont le miroir principal mesurera 25 mètres carrés. Mais ces deux télescopes seront des nez à côté du télescope géant Magellan, en construction dans le désert d'Atacama au Chili. Le miroir de celui-ci couvrira, écoutez bien, 368 mètres carrés. En permettant d'examiner les parties visibles et invisibles de spectres infrarouges, les deux nouveaux télescopes en cours de construction agiront de manière complémentaire, explique le directeur du télescope Magellan, Patrick McCarthy. Travaillant ensemble, les deux vont, je pense, nous donner une image complète, qu'il s'agisse de planètes autour des étoiles proches, les trous noirs dans les centres d'autres galaxies, ou de l'origine de l'univers, ce moment que nous appelons la première lumière, lorsque sont apparues les premières étoiles dans les premières galaxies. Le télescope Magellan, qui pèsera 1200 tonnes, reposera sur un système hydraulique pour l'isoler des vibrations et des frictions. Une série de caméras et spectrographes enregistreront et disséqueront la lumière reçue en quête de traces d'atomes et de molécules. Cette lumière venant de centaines de milliards de kilomètres pourrait être très faible, souligne Patrick McCarthy. Les photons arrivent toutes les 15 ou 20 minutes, si bien que cela prend du temps pour collecter cette lumière. Dans notre cas, nous pensons quelques photons par minute, mais on a besoin de centaines pour obtenir un bon signal. Cela prendra donc de la patience. Avec un télescope à même de détecter les bougies d'un gâteau d'anniversaire sur la Lune, personne ne sait vraiment à quoi s'attendre, explique le directeur du télescope Magellan. Le plus important est l'inattendu, les nouvelles découvertes, les développements imprévus. Il en a toujours été ainsi dans l'histoire de l'astronomie. Lorsque vous vous dotez de nouvelles capacités, de jeunes gens découvrent des choses auxquelles personne ne s'attendait, ou alors ils démontrent que leurs aînés s'étaient trompés. d'un coût d'un milliard de dollars. Le projet lancé par les États-Unis, l'Australie, le Brésil, la Corée du Sud et le Chili devrait effectuer ses premières observations d'ici 2022 et être entièrement opérationnel en 2026.
Selon Olympe de Gouges, on ne possède pas la richesse, c'est elle qui nous possède. Ceci se reflète à travers les conclusions d'une étude d'une ONG internationale, Asset Owners Disclosure Project. En effet, les plus grands investisseurs au monde font fi de prendre en compte des méfaits des changements climatiques de la planète. Ils ne remarquent pas non plus les conséquences néfastes sur leurs actifs. Christophe Mourounzidza.
L'étude de l'ONG Asset Owners Disclosure Project, qui passe au crible annuellement l'engagement environnemental des 500 plus grands investisseurs mondiaux, montre que les assureurs et les fonds de pension qui ignorent le changement climatique jouent avec les économies et la sécurité des centaines de millions de personnes dans le monde. L'ONG affirme que 246 investisseurs qui représentent 14 300 milliards de dollars de fonds ignorent complètement le risque climatique, tandis que 97, représentant 9 400 milliards, prennent des actions effectives pour réduire le risque des changements climatiques. Asset Owners Disclosure Project note que 10% des investisseurs mesurent l'impact carbone de leur portefeuille, tandis que 2% seulement affichent des objectifs de réduction de cet impact. L'ONG constate néanmoins des progrès par rapport au précédent classement, soit une augmentation de 138 milliards d'investissements bas carbone par rapport à l'année dernière. Des pays comme la Suède et la Finlande arrivent en tête de ce classement, la France 4e, tandis que des pays souverains d'États pétroliers comme le Qatar, le Koweït et l'Arabie Saoudite sont au bas du classement.
Carrefour se dirige vers Abidjan, Côte d'Ivoire, où une exposition itinérante qui a débuté après la COP 21 à Paris réunit le travail de 54 artistes africains, soit par un par pays sur le continent. Lumière d'Afrique est donc centré sur l'accès à l'électricité et plus largement aux idées lumineuses. Abidjan est la première étape de l'exposition. Emily Iyob l'a visitée, comme le raconte Anastasie Toudiech.
C'est une première dans l'histoire de l'art moderne. Des artistes africains de chaque pays du continent qui se réunissent pour réfléchir sur un seul thème, les Lumières d'Afrique. Cet ambitieux projet a été monté en amont de la conférence sur le changement climatique à Paris en novembre dernier et les défis n'ont pas manqué.
C'est pas si simple que ça. D'abord, il faut avoir tous les contacts, il faut connaître les gens. Pour certains, c'est très simple. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué.
Mais les organisateurs disent que les réponses ont toutes été enthousiastes. Ce thème de la lumière a eu une résonance différente selon les artistes. Certains ont voulu dénoncer la manière dont le développement du continent est freiné par le manque d'électricité que cet artiste tchadien assimile à la lumière.
Aujourd'hui, quand vous voyez tous les pays qui sont en voie de développement, les téléphones portables, les ordinateurs, tout a besoin de lumière. Et moi, je pense que le premier souffle de développement aujourd'hui, c'est la lumière.
Pendant que d'autres encore choisissent un angle plus figuratif, tel que les idées et personnalités lumineuses issues du continent.
Moi, je travaille plus sur la femme en général et je me suis dit pourquoi pas ne pas utiliser cette même femme-là pour montrer la lumière d'Afrique.
Peintre, photographe, sculpteur, l'exposition montre une large palette des talents africains.
C'est vraiment très, très rare en Afrique et on est forcément toujours intrigué lorsque il y a des expositions qui se font en Afrique sur l'art contemporain. Vous avez là 50 perspectives différentes, en tout cas ce que je viens de voir. C'est vraiment très intéressant et impressionnant de voir toute cette diversité de représentation de la lumière.
L'exposition reste à Abidjan jusqu'en juin avant une tournée en Europe, puis au Sénégal, en Afrique du Sud et en Éthiopie.
Dans la page santé, Michel Joseph nous parle de l'importance de la carotte pour notre santé liée au gène qui rend la carotte orange.
Grâce au séquençage complet du génome de la carotte, des chercheurs ont débusqué un gène responsable de l'accumulation du carotène, des pigments aux larges vertus santé, selon une étude publiée lundi dans la revue Nature Genetics. Philip Simon, universitaire américain et co-auteur de l'étude, affirme avoir découvert un gène qui conditionne l'accumulation de pigments de caroténoïdes dans les racines de carottes. Le carotène est un pigment orange présent dans les carottes et d'autres végétaux colorés, qui est converti par le foie en vitamine A, une vitamine essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. C'est également un antioxydant bénéfique pour la santé. Selon l'étude, le traitement de la carence en vitamine A est essentiel pour la santé mondiale. Le développement de sources de vitamine A durables doit donc être un des objectifs de l'optimisation des cultures. Les progrès des technologies de séquençage du génome vont permettre aux scientifiques de développer de nouvelles variétés de fruits et légumes dont la valeur nutritive sera améliorée, explique Philip Simon. La sélection assistée par marqueur sera une des utilisations les plus importantes du séquençage du génome de la carotte. Elle permettra aussi de travailler sur une modification des gènes d'autres légumes ou plantes, comme le manioc. Elle diffère de celle des OMG, qui consiste à insérer dans le génome de l'espèce cible un gène provenant d'une autre espèce. Un échange qui ne peut pas se faire de façon naturelle.
Merci Michel, je savoure déjà la carotte. Et maintenant, le virus Ebola persiste dans le sperme de survivants à l'infection jusqu'à 12 mois après la guérison. C'est ce que révèle une nouvelle étude de l'Institut de recherche pour le développement, IRD, qui a mené la recherche en Guinée en collaboration avec l'INSERM et l'Institut Pasteur et qui confirme des travaux déjà réalisés en Sierra Leone. Morgane Guiriec.
Le virus Ebola persiste dans le sperme de survivants à l'infection jusqu'à 12 mois après la guérison, selon une nouvelle étude de l'Institut de recherche pour le développement qui a mené la recherche en Guinée en collaboration avec l'INSERM et l'Institut Pasteur. Une étude qui confirme des travaux déjà réalisés en Sierra Leone. Dans cette étude publiée dans la revue médicale Journal or Infectious Diseases, des chercheurs ont suivi pendant un an 450 patients guéris sur lesquels ils ont effectué des prélèvements de liquide corporel, larmes, salive, fesses, liquides vaginaux et sperme. Ils ont notamment effectué 98 prélèvements de sperme sur 68 hommes. Le virus Ebola a été détecté sur 8 d'entre eux jusqu'à 9 mois après la guérison. Les chercheurs ont également montré que la persistance du virus dans le liquide séminal diminuait avec le temps. Entre le 10e et le 12e mois, le virus n'était plus présent que dans 3,5% des échantillons avant de disparaître totalement au bout d'un an. C'est la deuxième fois qu'une étude montre que des fragments de virus peuvent rester durablement dans l'organisme de personnes guéries, présentant un danger pour leurs conjoints qu'ils peuvent contaminer. Une étude menée en Sierra Leone et publiée en octobre avait déjà montré que près de 26% des hommes dont le sperme avait été testé entre 7 et 9 mois après l'infection étaient encore positifs. Ces résultats mettent l'accent sur la nécessité de recommander l'utilisation de préservatifs par les survivants dans les mois suivant leur guérison. Ebola a dévasté 3 pays d'Afrique de l'Ouest, Sierra Leone, Libéria et Guinée, depuis la fin 2013, infectant près de 25 000 personnes et faisant plus de 11 000 morts.
Le Brésil a enregistré 1271 cas de microcéphalie liés au virus Zika confirmés et ont causé 57 morts. Mais malgré les ravages de Zika, l'espoir se pointe à l'horizon pour vaincre le virus. Des chercheurs de l'université de Harvard ont conçu un test pour dépister rapidement et de manière peu coûteuse le virus Zika dans le sang et la salive qui pourrait être disponible dans les prochains mois, selon une étude publiée vendredi, n'est-ce pas Michel Joseph?
De l'avis des experts en santé publique, l'absence d'un test standard de dépistage du virus empêchait jusqu'à présent de mieux comprendre et contrer l'épidémie de ce virus. Les travaux des chercheurs de l'Université de Harvard porte sur un test rapide et peu coûteux, permettant de dépister le virus Zika dans le sang et la salive. Un de ses avantages, il permet de détecter le virus à des concentrations beaucoup plus faibles qu'auparavant, fait valoir dans son étude le Weiss Institute for Biologically Inspired Engineering de Harvard. Autre atout majeur, le test affiche son résultat par simple changement de couleur, si bien que même un œil peu entraîné peut facilement savoir si le virus Zika est présent ou non dans l'échantillon, soulignent les chercheurs. Le nouveau test a fonctionné sur des singes et pourrait coûter seulement 1 dollar par patient, selon les résultats des travaux publiés dans le journal Cell. En outre, le produit peut être lyophilisé et conservé pendant un an. Il améliorera les dépistages qui nécessitent actuellement des équipements spécialisés disponibles seulement en zone urbaine.
Pour terminer, l'intelligence artificielle n'existait plus simplement dans les livres et fils de science-fiction. Des voitures autonomes aux ordinateurs assistant les médecins, ces technologies sont déjà au point. Lors d'une récente conférence à l'Institut Milken de Los Angeles, des scientifiques ont discuté des avantages et des dangers de l'intelligence artificielle et de manière dont elle changera le monde. Le reportage d'Elisabeth Lee, présenté par Claire Morin-Gibourg.
D'un smartphone qui sait faire des recherches sur Internet à la fonction de pilotage automatique, l'intelligence artificielle existe depuis un certain temps, mais son développement et sa précision progressent rapidement.
Si nous voulons construire des systèmes plus intelligents que nous, il est absolument essentiel de comprendre comment garantir leur action à 100%.
Stuart Russell, professeur d'informatique à l'Université de Berkeley en Californie, affirme que de nombreux emplois de main-d'œuvre ou d'analyse de données, comme dans le secteur financier, seront remplacés par des machines dotées d'intelligence artificielle.
Mais si nous remplaçons tous les emplois qui exigent un travail physique humain et que nous remplaçons tous les emplois qui exigent de la réflexion humaine, alors vous devez vous demander, mais que reste-t-il?
Pour Gurudutt Banavar, qui travaille pour la société IBM, de nouvelles compétences professionnelles vont être créées.
Dans le futur, tout le monde aura à travailler avec ces machines intelligentes. Je pense donc que les compétences pour bon nombre de ces emplois vont finir par être différentes à l'avenir.
Stuart Russell, de l'Université de Berkeley, prédit que l'intelligence artificielle va changer l'économie et le mode de vie actuel.
La plupart des gens auront un emploi et auront probablement leur propre entreprise pour fournir des services personnels individualisés. Les emplois de masse dans les services financiers ou le travail à la chaîne dans les usines, tous ces emplois avec des milliers de personnes qui font la même chose vont disparaître.
L'intelligence artificielle est déjà en train de transformer l'industrie des soins de santé car elle peut traiter d'énormes quantités de données en un temps record. L'intelligence artificielle permet aussi aux médecins d'avoir accès aux dernières mises à jour de la recherche médicale pour aider à mieux diagnostiquer et traiter les patients. La technologie Watson d'IBM est déjà utilisée par beaucoup d'hôpitaux sur le continent américain, en Europe et en Asie. Gurudutt Banavar d'IBM.
La différence entre aller chez un médecin qui utilise la technologie Watson contre celui qui ne l'utilise pas est très importante. Parce qu'aujourd'hui, un médecin peut avoir 10 ans de retard dans sa connaissance des derniers progrès médicaux.
Tout n'est cependant pas rose en matière d'intelligence artificielle, qui s'est également développée dans le secteur militaire avec les drones armés surnommés les robots tueurs autonomes. Le professeur Russell de l'Université de Berkeley.
Les armes autonomes posent un risque majeur, que tout un chacun puisse utiliser ces équipements comme de véritables armes de destruction massive, une sorte d'arme nucléaire des pauvres.
Pour le professeur Russell, la communauté internationale doit créer des traités internationaux visant à interdire ce type d'armes.
But it is a race against time because the weapons are starting to emerge.
C'est une course contre la montre parce que ces armes commencent à apparaître sur le marché, la recherche se développe et la production d'armes de ce genre a commencé.
L'intelligence artificielle deviendra-t-elle un danger pour l'humanité ou au contraire sera-t-elle très bénéfique? Le débat reste ouvert. Quoi qu'il en soit, les chercheurs l'affirment, cette technologie continuera de transformer de nombreux aspects de notre vie.
Ainsi s'achève Carrefour Sciences et Santé. Eric Manirakiza était avec vous et vous retrouve la semaine prochaine. Boutique à la Malam. Bye bye.